Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur les ondes de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir. On va voyager un petit peu aujourd'hui avec vous, France Hubert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes doctorante au CIVIPOL et votre sujet de recherche actuellement, c'est la Colombie, mais plus précisément les femmes.
Oui, c'est ça. Donc, je m'intéresse à la participation des femmes rurales au processus de paix en Colombie dans la période post-accord, donc post-2016. En 2016, les FARC, donc c'est une guérilla d'extrême gauche, et le gouvernement ont signé un accord de paix qui était porteur d'énormément d'espoir. Mais en fait, un peu après cette signature, la mise en place a été un peu compliquée et les violences ont augmenté à nouveau. Et les femmes se sont toujours mobilisées tout au long du conflit colombien, donc les femmes de la société civile. Il faut dire aussi qu'il y avait des femmes dans le groupe des FARC, plus ou moins un tiers. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les femmes victimes du conflit et les femmes qui se mobilisent autour de mouvements pacifistes, mais parfois aussi simplement dans leur vie quotidienne.
Ok, donc ça, on vous réinvitera d'ailleurs, on a déjà dit ça hors antenne, parce qu'aujourd'hui, on voulait vous inviter, enfin, je voulais vous inviter par rapport au mouvement féministe en Amérique latine, parce que c'est un... On n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup, évidemment, on parlait d'eurocentrisme, voilà. Et donc, ces mouvements féministes en Amérique latine, on n'entend pas beaucoup parler, sauf quand il y a des grosses performances qui tournent autour du monde. On en parlera, mais ça sera donc en fin d'émission. Parce que tout d'abord, France Hubert, je voulais vous demander, l'Amérique latine, on sait ce que c'est, enfin on imagine, mais en fait, on imagine peut-être mal, c'est quoi l'Amérique latine ?
Okay. Donc c'est toujours bien de commencer par un exercice de définition. Mais aussi, comme on disait, ben voilà, un peu se décentraliser et essayer d'éviter de tomber dans l'eurocentrisme, de penser que tout ce qui se passe ici vient d'ici et que tout ce qu'on fait va être exporté ailleurs. Donc voilà, mettre l'accent sur la circulation des savoirs. Et donc l'Amérique latine, il y a toujours des tensions quand on doit la définir parce que personne n'est vraiment d'accord. Il y en a qui disent que on dit Amérique latine et catholique pour l'opposer à l'Amérique du Nord protestante. Et anglophone. Mais alors, on a des petits ovnis dans ce cas-là, par exemple le Québec, qui ne fait pas vraiment partie de l'Amérique latine telle qu'on se l'imagine. En plus, si on parle d'Amérique latine, c'est pour se référer à la langue, au fond, des colons, des pays qui ont colonisé, donc le Portugal, l'Espagne et la France. Donc voilà, c'est un espace culturel, politique aussi, qui n'est pas homogène.
Ok.
Parfois, certains se réfèrent aussi à Abiyala pour parler des Amériques et donc pas juste de l'Amérique latine. Mais ça, ça vient d'une langue d'un peuple autochtone situé près du Panama et de la Colombie dont le nom m'échappe maintenant. Mais voilà, il y a des processus de déconstruction. Si je peux me faire une petite recommandation pour les auditeurs et auditrices, il y a une chanson qui donne une certaine image de l'Amérique latine d'un groupe qui s'appelle Calle 13, donc c'est un groupe portoricain qui s'appelle Latino America, donc voilà, ça c'est très descriptif. Et voilà, c'est peut-être pour donner une petite idée de ce qu'est l'Amérique latine, mais ça recouvre l'Amérique centrale, on va dire, avec le Mexique, et l'Amérique du Sud, donc qui va de la Colombie à la pointe sud du Chili.
Voilà, en prenant le Brésil et
voilà,
tout ça.
Voilà, exactement, oui.
Et les Caraïbes ou pas ?
Ben voilà, donc souvent, par exemple, dans les associations de sciences politiques qui s'intéressent à cette zone géographique, on dit Amérique latine et Caraïbes. Voilà, okay. Ils ont par exemple, la Jamaïque, c'est anglophone, mais ça reste un espace. Et il y a des pays des Caraïbes qui sont hispanophones, donc latinos. Donc ça reste un espace, voilà. Et puis ça dépend de si les peuples, enfin les individus, pardon, se reconnaissent en tant que latino, latina, latinx, parfois on dit aussi. Ou pas, donc voilà.
Oh là là, c'est vrai que ça a l'air compliqué quand même, du coup. C'est assez flou en fait.
Exactement.
Mais alors, j'avais une question, mais qu'est-ce qui les rassemble ? Mais finalement, est-ce que c'est la langue qui les rassemble ? Plus ou moins, est-ce qu'il y a une culture commune ? Parce que, enfin,
voilà.
Moi je vois pas très bien, enfin, mm-hmm. si on prend surtout les Caraïbes avec, entre la Jamaïque et le Brésil, voilà, allez bon.
Uh-huh.
Ou la Colombie, enfin je sais pas.
Ouais, donc une langue non, parce qu'il y a l'espagnol et puis le portugais au Brésil. Une histoire coloniale, ça certainement, ouais. Une histoire coloniale très difficile, très violente, certains diraient génocidaire. Et puis, donc ça, c'est pour l'histoire. Aujourd'hui, un continent des inégalités, ça dans tous les pays d'Amérique latine, bon, certains moins d'autres, par exemple le Costa Rica, moins que le Brésil, mais ça reste une terre d'inégalités.
Ok, je me demandais si c'était pas aussi un peu, et je l'ai lu, hein, parce que là, je voulais dire un autre mot, mais en fait, je le trouve pas, et il est dans mon petit carnet que, hein, l'arrière-cour des États-Unis, un peu la zone d'influence des États-Unis, enfin, ça reste quand même quelque chose de très...
Exactement, donc les États-Unis sont intervenus politiquement, militairement, dans plusieurs pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, donc d'Amérique latine,
voilà.
comme on vient de l'apprendre. Donc oui, certainement. Et il y a aussi la question, est-ce que c'est un espace occidental ? Est-ce que ça fait partie de l'Occident ou pas ? Voilà, en termes plutôt de relations internationales, ça, il y a aussi des mouvements, des pays qui ont fait partie des mouvements des pays non alignés. Donc voilà, ça reste flou. Ouais, et c'est normal au fond, c'est une zone géographique immense, une zone culturelle immense et très, très riche et très diverse. Donc au fond, c'est peut-être normal qu'on ait du mal à la définir. Et c'est bien de ne pas la prendre pour acquis et de se dire, ben voilà, c'est ça l'Amérique latine. C'est bien de revenir sur la définition parce que sinon, on en parle et sans vraiment savoir ce que ça recouvre.
Oui, bien sûr. Et donc, avec des spécificités dans chaque pays, évidemment. Mm-hmm. Et pourtant, au niveau du féminisme, il y a un féminisme s'est développé assez, assez tôt. Enfin, je ne sais pas si on peut dire assez tôt parce que c'est quoi assez tôt finalement. Et alors là, je vais faire mon eurocentré un peu comme en Europe. Finalement. En fait, ça a commencé à la même époque. Enfin, à la même époque, ouais, fin 19e.
Ouais. Donc, c'est vrai qu'au début, les femmes se mobilisent pour leurs droits politiques. Donc, ça ressemble à l'Europe, le féminisme de la première vague. Ben, en fait, on peut dire que ce n'est pas un mouvement importé, ça c'est sûr. Dans le sens
où. Ils n'ont pas imité les européennes, quoi.
On peut plutôt. Moi, je suis plutôt d'avis de dire que le féminisme, c'est une réaction. Donc, ça, on part de. C'est un mouvement d'émancipation qui part de l'expérience vécue, qui passe par les corps et les esprits. Et donc, bah, au fond, c'est pas non plus étonnant que des femmes qui vivent sous le patriarcat se mettent à être féministes et luttent pour leur émancipation vu qu'elles subissent et qu'elles sont de l'autre côté de l'oppression.
Mmh. Alors, selon un article de Jules Falquet, le mouvement féministe en Amérique latine et aux Caraïbes, ben tiens, qu'on retrouve sur Cairn Info. Donc l'auteur définit différentes vagues à ce féminisme. Donc première vague qui est un peu finalement, qui ressemble un peu à ce qui est en Europe. Ensuite une seconde vague qu'on va découvrir à partir des années 60. Là de nouveau, on peut faire un parallèle. Mais quelle est la spécificité du mouvement féministe ou des mouvements D'ailleurs, parfois on dit le féminisme ou les féminismes. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Ben, je dirais, dans les sciences sociales, on aime bien mettre les choses au pluriel pour les rendre un peu plus complexes et leur donner un peu plus de profondeur et d'épaisseur. Donc, souvent, on dit les féminismes. En effet, c'est pour bien rendre compte qu'il y a une diversité, que ce n'est pas un mouvement unifié comme d'autres mouvements qui le seraient. Moi, je dirais que. Et bon, c'est pas que moi qui le dis, que les féminismes en Amérique latine, ils sont proches des luttes de gauche. Ils font partie des luttes de gauche.
Dès le départ.
Oui, ça veut pas dire nécessairement que tous leurs alliés sont à gauche. Par exemple, dans les mouvements dans les années 60-70 pro-révolutionnaires, il y avait des révolutionnaires socialistes communistes qui disaient « Eh oh !» va pas falloir nous ennuyer avec vos trucs de femmes, là, donnez-vous pour la révolution, il faut pas diviser les femmes. Il faut pas diviser la révolution.
Oui.
Et plus proche de nous, par exemple, en Équateur, il y a un président qui a fait partie de ce qu'on a appelé le virage à gauche en Amérique latine, qui s'appelle Rafael Correa, qui donc est un président de gauche, 2007-2017, mais en fait, il a complètement écarté la légalisation de l'avortement de son agenda. Donc il y avait des députés au sein de sa majorité qui voulaient le mettre à l'agenda de leur législation. Et voilà, elles se sont fait écarter. Parce que, oui, il est de gauche, mais en fait, est-ce qu'il est féministe ? C'est pas sûr. Donc voilà.
Mais tous les féministes ne sont pas de gauche, mais...
Ou plutôt, là, oui, tous les gens de gauche ne sont pas féministes dans ce cas-ci.
Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, donc... Il y a cette spécificité-là qu'on voit dès les années 60-70. Et aussi, comment il se développe, ce féminisme ? Parce que, voilà, on a une image, peut-être, de l'Amérique latine en Europe, à travers aussi les années 70 et toutes ces dictatures, les dictatures militaires qui sont mises en place. On peut parler de celles au Chili, en Argentine, je ne sais pas où il y en a eu d'autres, mais je pense qu'il y a eu au Pérou aussi.
Ouais.
On peut se demander comment est-ce que, ou justement, que c'est logique que des mouvements féministes se développent sous une dictature militaire.
Ouais. Donc, en effet, souvent, si on a l'image de, par exemple, les mères de la place de Mai en Argentine. Et ça, c'est,
on va les rappeler peut-être ce que c'est,
ces mères de la place de Mai. Donc, milieu des années 70 à début des années 80, 76-83, l'Argentine est sous une dictature, et une dictature très, très répressive, dictature militaire. Et il y a des disparus. Hein. On n'a pas vraiment l'habitude de parler de ce terme en français, mais donc desaparecidos.
C'est ça. En espagnol, c'est vraiment des disparus.
Exactement.
Alors
voilà.
Que c'est très bien, c'est des victimes de la
dictature.
Voilà,
c'est des victimes de la dictature. Et on, voilà, les femmes et donc les mères et grand-mères de la place de Mai, donc il y a une place à Bogota. À Bogota, non, ça, c'est la capitale du pays que j'étudie. À Buenos Aires, pardon. Elles se mobilisent dans l'espace public et donc elles font directement un affront, mais elles ne disent pas « on est contre la dictature réellement », elles disent « on cherche nos disparus, on cherche nos fils, on cherche nos enfants donc voilà, la dictature extrêmement répressive qui enlève, torture et fait disparaître, donc en fait assassine ». Et donc elles se mobilisent dans l'espace public. Ça peut être rejoint par exemple, pour le cas que j'étudie en Colombie, c'est des femmes qui se mobilisent pour la fin du conflit. Elles disent il faut qu'on élabore une culture de paix, il faut qu'on élabore une solution politique au conflit, parce que là, cette militarisation, elle n'est pas possible.
C'est pas tout à fait... Alors, ça y est, c'est mon eurocentrisme qui ressort. C'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler des revendications féministes pour des droits pour les femmes, ou arriver à une égalité de droits. Donc là, on est vraiment dans des femmes qui luttent pour une modification d'un État, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que certains courants du féminisme revendiquent une refonte et un monde nouveau, mais d'autres se concentrent sur des sujets bien précis. Et en fait, aussi, il y a cette idée de mouvement de femmes et mouvement féministe. Ce n'est pas toujours la même chose. Il y a des mouvements de femmes qui ne se revendiquent pas féministes. Il y a des mouvements de femmes qui se revendiquent féministes. Il y a des mouvements féministes avec des hommes et avec d'autres minorités de genre. Mais là, bon, on est dans les années 70-80. C'est des mouvements de femmes, en fait, qui utilisent leur rôle traditionnel de mère pour se mobiliser dans l'espace public. Mais en se mobilisant dans l'espace public, ça a un impact féministe, en fait.
Bien sûr.
Et donc, voilà, ici, elle se mobilise pour une cause précise. Dans les années 80, le féminisme va évoluer et on parle parfois de la décennie perdue en termes économiques pour l'Amérique latine. C'est une grave, grave crise économique. Mais en fait, à ce moment-là, les féminismes vraiment bouillonnent dans toute l'Amérique latine et elles se mobilisent et elles parlent de féminisme populaire parce qu'elles vont se mobiliser à partir de projets de développement. Et elles vont aller chercher à la base toutes des femmes dans les centres urbains notamment, mais pas que. Et elles vont dire, ben voilà, c'est aussi une lutte économique. Et donc elles vont essayer de rassembler les femmes autour de ce sujet.
Donc là, on est vraiment dans une...
Une cause bien précise. Ouais. Et c'est pas le cas pour toutes les femmes, pour tous les mouvements féministes. Mais là, en tout cas, à ce moment-là, elles se mobilisent pour quelque chose de très précis.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuna piu ya rima ni kuna wa ni kuna para kuna. Kuna ka allí está que juega ira kuna chay muko a kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa kuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taquer sutik mi Latinoamérica. Uy, ari kusunchis.
Cancunapa. Soy, Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Et ce qui est étonnant aussi, de ce que j'ai pu lire, en Amérique latine, il y a une sorte d'internationalisation du mouvement.
Exactement. Donc en fait, les premières, on va dire, traces de ça, c'est des rencontres. Alors on ne dit pas à ce moment-là féministe, on dit que c'est un congrès international féminin. Donc c'est différent, hein. C'est juste de femmes, quoi. Mais là, on parle déjà des droits politiques, donc ça, c'est début 20e.
Et donc, ça reprend plusieurs pays.
Ça reprend plusieurs pays, et là, on discute, ben voilà, de, par exemple, de travail et de droits politiques. Et puis, à partir de 81, le premier a lieu à Bogota. Là, c'est des rencontres transnationales au niveau du continent, et, enfin, de l'Amérique latine. Là, c'est vraiment des congrès féministes.
Et donc, dites,
dites féministes, c'est okay. Comme ça qu'elles se nomment. Et donc là, elles se rassemblent, elles parlent de leurs pratiques. Et on peut se demander, bon, à quoi bon? Mais en fait, on en voit encore les effets aujourd'hui. Donc, le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça a été décrété par une résolution de l'Assemblée des Nations Unies fin des années 90. Mais en fait, ça, c'est déjà une proposition en 81 à Bogota de la délégation des femmes dominicaines qui disent... C'est à cette date que trois sœurs, les sœurs Mirabal, ont été assassinées en luttant contre la dictature de Trujillo en 1960. Et donc, on voudrait que le 25 novembre, date à laquelle elles ont été tuées en luttant contre la dictature, ce soit la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, on voit que ce qui se passe en Amérique latine a aujourd'hui un impact dans le monde, parce que le 25 novembre, j'imagine sur le campus de l'ULB, ailleurs en Belgique et ailleurs dans le monde, on célèbre la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.
Sans savoir d'où ça vient.
Sans savoir d'où ça vient. Et on voit ici un petit peu comment, ça c'est aussi expliqué dans l'article de Jules Falquet, comment, donc au début on part de lutte de gauche contre ces dictatures, et puis de lutte de féminisme populaire dans les années 80 avec la crise économique. Et puis petit à petit, c'est repris par le FMI, par la Banque mondiale internationale, par l'ONU, et ça perd un petit peu de sa substance, ça perd de sa profondeur.
Il y a aussi ce côté où finalement l'Amérique latine va commencer à, j'allais dire sombrer, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire sombrer, qui va tout doucement glisser vers le néolibéralisme, et là aussi, ça rejoint les luttes féministes.
Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, quand on regarde...
C'est aujourd'hui, je crois que c'était déjà...
Non. Ça vient fin des années 80, ouais. Début des années 90. Mais aujourd'hui, quand on regarde un petit peu le panorama, les femmes n'hésitent pas à dire, et les féministes n'hésitent pas à dire qu'elles luttent aussi contre le néolibéralisme. Donc voilà, elles luttent contre toutes sortes d'oppressions. L'une d'entre elles, c'est le genre, mais ce n'est pas la seule oppression. Ce n'est pas la seule domination contre laquelle... voilà, il n'y a pas que le patriarcat qu'il faut faire trembler et qu'il faut dénoncer. Il y a aussi le néolibéralisme qui leur met la corde au cou, en fait.
Dans quel sens ?
Dans le sens où c'est une... notamment dans les années 80, il y a plein de gens qui se retrouvent dans la pauvreté, qui perdent non seulement le pouvoir d'achat, mais il s'agit ici aussi parfois de se nourrir. Et... c'est les mesures d'ajustement, si je ne me trompe pas, exigées par le FMI et la Banque mondiale et qui les mettent au pas, voilà. Et c'est... Mais comme elles ont une histoire aussi de lutte de gauche, aujourd'hui, elles continuent à lutter contre le néolibéralisme.
Alors justement, donc mouvement proche des gauches, j'ai vu aussi dans le fameux article de Jules Falquet qu'à un moment aussi, quand même, ces mouvements féministes ça se craquelle un peu, parce qu'il y a aussi des revendications féministes, mais portées par plus de minorités, par des femmes plutôt minorisées, comme les afrodescendantes, ou les lesbiennes, ou les indiennes. Mais comment ça s'est passé ? Enfin, c'est quand même resté un mouvement unitaire. Parce que là, j'ai l'impression qu'on parle d'un pays, mais en fait, là, on parle de je sais pas combien de pays.
Ouais, on parle d'une bonne... je vais pas dire de chiffres sans calculer, mais on parle d'une bonne série de pays, là. Oui, donc, en fait, elles ont été longtemps écartées.
Parce que c'est un mouvement exemple, assez blanc quand même.
Au début, oui. Par exemple, dans les années 60, 70, c'est un mouvement dans la majorité de femmes éduquées dans les universités. Par exemple, en Colombie, à l'Université nationale, il y a le mouvement Mujer y Sociedad, donc femmes et société. Et donc, voilà, c'est des intellectuels qui parlent, qui se rassemblent et qui mettent à l'agenda leurs priorités en premier. Petit à petit, par exemple, les femmes noires brésiliennes, elles vont commencer à parler de ce que Kimberlé Crenshaw appelait l'intersectionnalité, mais elles ne sont pas tout de suite prises dans ce mouvement plus large, ces mouvements plus larges que sont les féminismes en Amérique latine, et ça peut prendre du temps. Il y a aussi le féminisme dit communautaire, donc des communautés autochtones, qui se fait une place. Et alors, il faut une remise en question, justement, de ce féminisme plutôt blanc, même si...
C'est entre guillemets.
Voilà, elles sont pas aussi blanches que nous. C'est pas les mêmes enjeux. Enfin, c'est pas toujours les mêmes enjeux à ce niveau-là, mais...
C'est ça qu'en fait, dans l'article, ils disent à la peau claire.
Voilà, peau claire, parce que c'est aussi... c'est un continent qui a été métissé, parfois par des politiques d'État, donc politiques publiques de métissage. Mais donc, voilà. Par exemple, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, qui vient des féminismes des peuples autochtones, c'est le lien entre que font, donc par exemple, au Guatemala ou en Bolivie, il y a cette idée contre les projets d'extraction minière, par exemple, la défense du territoire corps, donc la violence machiste, et la défense du territoire terre. Okay. Donc là où je vis, le lien à la terre qui est très important en fonction de leurs croyances. Et donc ça, c'est quelque chose auquel, par exemple, ici en Europe, on n'avait pas trop pensé jusque-là. Mais c'est des innovations et c'est des manières de penser qui aussi enrichissent ces mouvements latino-américains.
Et donc, qui continuent à unifier ces mouvements aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, les mouvements féministes en Amérique latine sont toujours présents. On a pu voir, je ne sais pas pourquoi j'associe ça, moi, au Covid-19, mais ce n'est pas grave, ça ne doit pas être ça, la fameuse chanson qu'on va écouter d'ailleurs un peu plus tard, cette performance qui a fait le tour du monde. Et donc, on a une impression d'un féminisme aujourd'hui qui est très revendicatif, qui est très mouvant, qui est très dynamique, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, qui est très dynamique.
Oui, donc il n'y a pas longtemps, c'était le 8 mars. Et quand on voit dans les capitales des pays latinos, mais pas que dans les capitales, dans les grandes villes souvent, les manifestations, donc souvent en musique, en danse, en performance. Et en effet, la Stesis, cette performance, ça s'appelle « Un violador en tu camino », donc « Un violeur sur ton chemin ». Et là, en fait, elles accusent l'État, le juge, le policier, d'être complices, de participer. Donc, elles disent « L'État oppresseur, c'est un macho violeur ».
Ok.
Et voilà, vous ne voyez pas la violence que l'on subit, ces viols que l'on subit.
Elles avaient les yeux bandés,
exactement, la chorégraphie.
C'est pour rappeler aux auditorices le visuel, peut-être.
Et donc, en effet, c'est vrai que... Non, on ne va pas chanter. C'est vrai que ce visuel, il est important. Et c'est aussi ça qui permet la circulation. Et comme je le disais, on essaie de faire un exercice de décentralisation, d'éviter l'eurocentrisme. Mais là, c'est un bon moyen de se rendre compte que les savoirs circulent. Ça passe par l'expérience vécue, donc c'est repris parce que plein de femmes peuvent s'identifier et donc reprennent c'est une circulation mouvement sud-nord dans ce cas-ci, donc qui va d'Amérique latine. Et en fait, c'est repris partout dans le monde.
On va justement l'écouter maintenant.
El patriarcado es un juez
Alors, c'est parti donc d'Amérique latine, du Chili ou d'Argentine, on ne sait plus très bien d'où c'est parti. Ça a fait le tour du monde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça a tellement marché, à votre avis parce que là, je ne sais pas si vous avez fait des études là-dessus. Moi, j'ai un avis là-dessus, mais voilà, c'est que...
Bah, je pense que ça, c'est totalement un avis personnel. Mais en fait, voilà... Je fais des recherches au CEVIPOL et je suis inscrite dans le monde académique. Mais aussi, quand il s'agit de mouvements féministes, ben, je parle depuis ma place d'activiste féministe ici et de personnes qui m'intéressent à ce qui se passe en Amérique latine. Mais je pense que ben, beaucoup de femmes et de minorités de genre aussi peuvent s'identifier. Et puis, c'est entraînant. Ça donne des frissons la première fois qu'on l'écoute.
Fond. Pardon, oui, tout à fait.
Je pense qu'il y a ça aussi. Et comme on le disait, ça passe par le corps, ça passe par les sensations. Et donc, on se reconnaît là-dedans. Et elles sont très fortes, si je peux dire. Il y a aussi une chanson, une canción sin miedo, chanson sans peur, de Vivir Quintana, qui parle des féminicides. Et donc là, c'est un autre gros sujet. Des luttes actuelles, des mouvements latino-américains et féministes, c'est cette lutte contre les féminicides. Et ça a commencé en fait au Mexique, à Ciudad Juárez, qui est une ville au Mexique. Et là, en fait, on se rend compte, donc des femmes de la société civile, quoi. Là, il ne s'agit pas de chercheuses, des femmes ordinaires, se rendent compte que, en fait, leurs sœurs, leurs filles, leurs mères, leurs amis disparaissent. Et quand on retrouve les corps, ils sont surtués. Donc, on les tue, et enfin, les violences ont lieu avant ou après la mort, mais ces corps sont mutilés, violés, et donc, on voit une énorme violence sur ces corps. Et donc, les femmes essayent un peu de... Enfin, se questionnent autour de ça, de cette disparition. Et une anthropologue, Marcela Lagarde, à partir des années 90, donc, elle va essayer de faire sens de ça. Et en fait, elle dit, c'est permis parce que c'est impuni.
Ouais.
Donc il y a une énorme violence sur les femmes. Il n'y a aucune réaction. Et les personnes qui cherchent les corps se font aussi menacer. Et donc c'est l'État qui est complice tout autant, enfin l'État dans son ensemble et pour tout ce qu'il représente, qui est aussi complice parce qu'il y a une impunité énorme. Et donc autour du féminicide, il y a pas mal de travaux d'anthropologues, de sociologues, de politologues autour de ça. Mais il y a aussi toujours les mouvements et les luttes. Et par exemple, il y a le mouvement Ni Una Menos, donc pas une de moins, qui, je vais essayer de rendre ça clair, qui vient d'un poème de Susana Chavez qui dit Ni Una Muerte Más, donc pas une mort de plus. Donc, mais le mouvement s'appelle Ni Una Menos, donc pas une de moins de nous, quoi. Il faudrait pas qu'on en...
Pas une mort de plus, mais pas une vivante de moins, quoi.
Exactement. Et ça, c'est aussi un mouvement sud-nord. Donc, ça a commencé en Argentine. Ça a fait tache d'encre jusqu'au Chili. Pour bien dire aussi que c'est toujours en dialogue. Il y a vraiment cette conscience latino-américaine. Au Pérou. Et puis, ce mouvement sud-nord vers l'Espagne. C'est aussi possible parce que...
Par la langue.
Par la langue, exactement. Et bon, parce que ces féminicides arrivent partout, donc voilà, c'est repris en Espagne aussi.
Est-ce que ces mouvements féministes aussi, qui sont peut-être plus dynamiques, qui sont très dynamiques en fait, c'est aussi une réaction à une société qu'on peut estimer, qu'on peut imaginer, peut-être plus patriarcale, peut-être plus traditionnelle au niveau catholique que ce qu'on connaît? C'est l'image qu'on a. Hein,
c'est l'image qu'on a, mais c'est vrai que là, quand on parle des féminicides, je pense que parmi les 20 pays où il y a le plus de féminicides, il y en a une bonne partie qui sont en Amérique latine.
Ah ouais?
Bon, il faut remettre en perspective parce que c'est aussi des pays qui ont beaucoup parlé de féminicides. D'ailleurs, le mot féminicide... pas l'invention, parce qu'au début on disait fémicide, et ça c'est Diana Russell qui l'a théorisé la première fois, mais féminicide, l'usage et l'entrée dans la loi, ça vient d'Amérique latine. Donc en Belgique, il y a une loi cadre qui est la loi Stop Féminicide, mais ça a commencé en Amérique latine. Mais en effet,
on a peut-être été passionnel avant. Hein.
Oui, voilà, exactement, malheureusement d'ailleurs. Ça vient de... aussi de cette expérience vécue, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est parmi les pays où il y a le plus de féminicides. Comme ils se sont beaucoup intéressés à la question, ils ont un très bon recensement. Il y a des pays où ils disent non, on n'a pas de féminicide. En fait, si, c'est juste qu'ils ne le recensent pas en tant que tel.
Ouais.
Mais en effet, reconnaître qu'une femme est tuée parce que c'est une femme, pour sa condition de femme, en espagnol, por el hecho de ser mujer, donc pour le fait d'être une femme, ça permet aussi, si on ne le nomme pas, on ne peut pas recenser. Donc là, à partir du moment où c'est nommé, et ça c'est en Amérique latine qu'elles ont commencé vraiment à bien le faire, dans la société civile mais aussi dans la loi, ça permet de les dénombrer, malheureusement en proportion énorme, mais voilà, c'est vrai que c'est des sociétés qui continuent à être très violentes, très inégalitaires, et bon, par exemple, si on regarde aujourd'hui la lutte pour l'avortement, c'est des... l'avortement est légal uniquement dans certains pays. L'Argentine, la Colombie, il y a peu. Et d'ailleurs, c'est une dépénalisation par la Cour constitutionnelle. Hein. C'est pas le gouvernement... Enfin, c'est pas au Parlement que ça s'est décidé. C'est la Cour constitutionnelle. C'est vraiment... En fait, aussi, il faut bien se dire, c'est une question de vie ou de mort, la question de l'avortement... parce qu'elles veulent un avortement donc légal, sûr et gratuit. Et en fait, le problème, c'est qu'elles ont quand même recours à l'avortement, et c'est une question de classe. Donc, dans les pays où c'est pas légal, les femmes les plus aisées vont aller dans des cliniques privées, même donc, si c'est illégal, et en général, ça se passe OK. Mais en fait, les plus pauvres, elles vont se diriger vers des cliniques clandestines.
Et là, il y a danger.
Et pas mal de pays ont un cas qui leur reste en tête. Par exemple, au Brésil, le cas Jandira, qui est une jeune femme qui s'est fait avorter dans une clinique clandestine. Et en fait, on l'a retrouvée carbonisée dans sa voiture. C'est flou, exactement ce qui s'est passé. Mais parce que, voilà, elles n'ont pas le choix que de se tourner vers des cliniques clandestines. Est-ce qu'il y a eu un problème au moment de la procédure? Voilà.
Mais justement, on l'a peut-être carbonisé dans sa voiture.
Exactement. Mais donc, il faut bien se dire que là, la lutte pour l'avortement, c'est aussi une lutte pour la survie des femmes. Mm-hmm. Parce que l'avortement sur légal et gratuit, ça veut dire que c'est pour tout le monde la même chose et qu'on adresse vraiment la question de la classe et qu'on ne laisse pas les plus défavorisés mourir de leur avortement, ouais, parce qu'elles vont dans des lieux peu sûrs, faute de pouvoir faire mieux, quoi.
Et peut-être dernière question, France Hubert, c'est aujourd'hui on assiste à une sorte de virage à droite dans certains pays d'Amérique du Sud. Hein, on pense, enfin ça a changé, mais on pense à Jair Bolsonaro au Brésil. Bon, il n'est plus là, mais c'est bon,
ouais,
il y est allé. On pense à Milei en Argentine, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Les mouvements féministes là-dessus, comment ils interagissent et quel est leur futur?
Ouais. Ben, donc ça, c'est un peu hors de mon domaine d'expertise, mais je sais que, par exemple, pour la première, le premier tour des élections en Argentine, donc c'est à deux tours, la présidentielle, les féministes s'étaient mobilisées donc, pour éviter justement...
contre lui, j'imagine.
Voilà, exactement. Pareil au deuxième tour, bon, elles sont pas assez que pour l'empêcher, mais bon, il a déjà fait des dégâts. Ouais. Il a déjà parlé de retirer l'avortement.
C'est ça que je pensais.
Alors que, je sais pas si on se rend compte, mais la lutte pour l'avortement en Argentine, c'est une lutte sur le temps long. C'est une lutte qui a déjà rencontré pas mal d'obstacles, qui est parvenue à ses fins au final il y a quelques années déjà. Alors, parfois, on voit le foulard vert. Le foulard vert, ça vient d'Argentine. Donc, c'est le foulard que portaient les maires de la place de Mai, qui était un foulard blanc. Là, c'est un foulard vert. Elles disent parce que... Enfin, on pense que c'est parce que c'était pas une couleur politique, en tout cas en Argentine. Et on le voit aujourd'hui, même aux États-Unis. C'est repris aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une lutte très intense qui s'est internationalisée parce que, ben voilà, aux États-Unis, ils le reprennent pour... Enfin, suite à Roe versus Wade qui n'est plus... donc ça circule. Quand on a vu les images du 8 mars, il y avait encore le foulard vert, donc vraiment c'est un mouvement pour la dépénalisation de l'avortement très fort, très organisé, qui est donc, comme je le disais, elles ont fait reconnaître la légalisation de l'avortement et c'est à nouveau en danger.
Ouais,
donc en effet
il faut faire comme la France en fait, dans la constitution et puis c'est bon.
Ouais, mais en parlant de ça d'ailleurs, par exemple, en Colombie, c'est légal de se faire avorter. D'ailleurs, jusque 24 semaines, pardon. 24 semaines. Mais, OK, c'est dans la loi. C'est possible. Mais qui y a accès?
Ouais, aussi,
qui sait,
de nouveau,
qui
quoi.
Qui sait que c'est possible pour elle? Qui, par exemple, il y a c'est un autre territoire. Donc, il faut parfois faire des heures de route avant d'arriver à un poste médical. Et dans ce poste médical, parfois, il n'y a personne. Mm-hmm. Et parfois, il n'y a personne qui voudra faire un avortement.
Ouais, voilà. C'est
donc, voilà. On parle beaucoup des lois, des avancées. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant.
Tant que ce ne sera pas sur le terrain. Voilà, bah, France Hubert, merci beaucoup d'être venue nous parler de ces mouvements féministes en Amérique latine. Et on vous réinvitera... dans le courant des semaines qui suivent ou des mois qui viennent, pour parler de peut-être plus spécifiquement alors de la Colombie par rapport justement à ce traité de paix avec les FARC en 2016 et donc la place des femmes là-dedans.
Merci
voilà.
Beaucoup.
Merci beaucoup et à très bientôt alors. Au revoir.
Merci.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en